MC.
Ils doivent faire à peu près le travail des milieux excentriques et comme là il n'y en a pas, ils doivent le faire. Donc.
J'espère que la route va vite tourner.
Le Super Football Show.
Nous sommes d'excellents skieurs, mais on peut être aussi de temps à autre de très très bons footballeurs.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Jean-Louis Tour.
Bonsoir à tous, c'est parti pour l'after. On est ravis de vous retrouver comme tous les lundis pour revenir avec du recul, avec les idées claires sur le week-end de Ligue 1 au travers des avis tranchés, des questions de l'after et des drôles de dames pour toute l'actu étrangère. Ce sera à partir de 23h. Comme tous les lundis, ils sont là. Daniel Riolo, salut Daniel.
Salut les amis.
Et Pierre Ducrot, salut Pierre.
Salut.
Mais pourquoi tu gardes ton écharpe?
Parce qu'il n'a pas eu le temps de l'enlever, il n'y a pas pensé.
Non, c'est pas ça, c'est scandaleux. Hier, Daniel a demandé 10 fois qu'on coupe la clim, elle n'est jamais coupée, donc moi maintenant je garde mon écharpe pour pas être malade.
Elle y est
tout.
Pas ce soir.
Ah oui.
Elle y est pas.
Tu vas avoir chaud là.
Ah bon, j'enlève. Voilà.
Très bien. Très bien. Vous avez eu vos petits problèmes d'hier là.
Oui,
on te met au courant quand même.
Ah, mais c'est gentil. C'est lui, il est en pleine forme, il rentre de vacances, monsieur.
Ah, moi je suis au top, et puis je vous ai écouté, etc. Donc plein de choses à dire.
C'est vrai ou t'as vraiment coupé?
Non, j'écoute quand même.
C'est vrai.
Là par exemple, j'avoue que l'émission d'hier, je l'écoute à chaque fois pour essayer de pas être trop redondant sur les sujets. Même si on va revenir un peu sur ce que déjà vous avez évoqué hier sur l'OM, ce sera l'avis tranché de Daniel. Il y aura également celui de Pierre consacré à Rennes. Alors ça, vous en avez pas parlé hier. Mais Rennes, on s'est souvent moqué dans l'after. Daniel, je parle sous ton contrôle. Hein. C'est toi le pilier de l'émission.
À juste titre.
Bah voilà. Oui, c'est souvent à juste titre. On a tous.
À juste titre.
Oh, on en parlera.
Mais il se trouve que cette semaine, ils ont reçu une visite, les Rennais. Une sainte visite.
Ah,
et que tout va changer maintenant pour eux.
Moi, c'est pas sur la visite. C'est un peu plus global.
Tu reprends les fluides, tu peux pas les donner à tout le monde. Tu l'avais donné à Genesio, là tu l'as repris
moi,
et tu l'as donné au Rennais.
Je donne pour 2 mois.
Ah ouais.
2 mois. Ah bah c'est bien, pour la fin de saison. Pour la fin de saison, c'est nickel.
Ah ouais, c'est ça. Je le donne pour 2 mois. Voilà, généralement. J'arrive, ça tombe bien. Tu mélanges les fioles.
Ouais, vaut mieux te voir au mois d'avril, quoi. Comme ça, tu finis en trompe.
Pascal Duprat, tu lui avais donné?
Ouais, mais au mois de septembre,
tu rigoles. Quand je vais le voir et tout, c'est leur meilleure période. Ils ont pas eu d'aussi bonne période après.
Quand?
Qui?
Septembre.
De quoi? Ah oui, c'était début septembre.
Ah ouais, après, il y a trop de temps derrière.
Moi, j'y vais quand
il y a trop de temps derrière.
Tu vas bien me recevoir.
Tu vas te casser la gueule derrière.
Pélissier, Amiens aussi. Début de saison.
Ouais. Bon, après, tu vas voir la saison. En même temps, tu vas voir les gens qui marchent. À chaque fois.
Bah oui.
Tu vas rarement là où c'est très compliqué.
Là, t'es en train de mettre. Je le vois pas comme ça.
Il faut vraiment. Que tu notes qu'après, il y a une embellie qui est indéniable.
D'accord. Ben, je t'invite à aller voir Frédéric Hantz ou Christophe Galtier et on verra. Là, c'est un défi à ta hauteur, tu vois.
Bah, avec Lille, ça peut très bien marcher pour qu'il se sauve.
Eh ben, écoute, on verra.
Ça serait bien comme expérience, tiens.
Lille, on en reparlera d'ailleurs dans les questions de l'after tout à l'heure, puisque les propos de Christophe Galtier vont peut-être vous faire réagir. On y reviendra donc en fin d'heure. Et puis les drôles de dames seront là, avec un gros programme, évidemment. Alors, je précise, s'il y a des petites réactions de Daniel ou de Pierre en même temps, on raconte tout. On a un œil sur France-Brésil. On ne sait pas si la France va se qualifier ou non pour les demi-finales de la Coupe du Monde 86.
Voilà, 86, faut le dire.
On a eu des France-Brésil. L'envolée de Joël Bat,
l'arrêt de Jobat Savon, là.
Sur la chaîne L'Équipe là, de nos confrères.
La fameuse ouverture de Platini pour Bellone.
Non mais n'y allez pas, je pense qu'il va pas vous commenter le match.
Vous inquiétez pas, à la fin la France va se qualifier.
Le jeu là, ça part d'Amoros en une touche qu'on voit sur Platini qui fait déviation immédiate en profondeur sur Bellone. L'action est magnifique.
Mais c'est fou qu'il n'y ait pas un coup de sifflet là quand même.
Ah oui, là c'était
c'est un truc de fou.
Bon,
là au niveau scandale arbitrage sur Bellone, c'est un peu dingue.
Le vintage. Rendez-vous demain. Demain, soirée exceptionnelle. Ce sera le cas dans l'after. Je vous fais l'annonce tout de suite. Demain, on va revivre France-Brésil 98 sur RMC, sur BFM Sport. Grande soirée entre 20h et minuit, avec l'avant-match, avec le match en intégralité, commenté avec Jeannot Rességuier.
C'est bien, c'est génial.
Avec Captain Larcher, avec Franck Leboeuf également.
Ouais, non, mais c'est top, mais c'est pas la France de 86, quoi.
Non, c'est vrai. Et le débrief, donc, dans l'after. After exceptionnel, donc, laissez-moi faire mon métier, s'il vous plaît. Pour vendre donc cette soirée de demain exceptionnelle. Et puis Team Duga également demain, à ne pas rater à 18h. Là, l'émission sera à la Canopée des Halles avec le trophée, la Coupe du Monde qui sera là, puisque la Coupe du Monde fait régulièrement une tournée un peu partout dans le monde. Elle est à Paris demain. Team Duga sera sur place avec Christophe et pas mal de champions du monde 98, ceux de notre Dream Team, Manu Petit, Franck Leboeuf, Lionel Charbonnier, mais également Marcel Desailly, Christian Carambeu, Vincent Candela. Donc Team Duga spécial demain.
Match qui aura lieu, comme le dirait Duga, à la...
à l'arène U.
Alors ça c'est le match des 20 ans, le match anniversaire, ça il aura lieu le 12 juin à la U Arena.
À la U Arena.
Ça ce sera le match anniversaire contre une sélection mondiale, ce sera un peu plus tard.
Mais il faut que nos auditeurs, les plus jeunes et les moyens jeunes, parce que ceux de notre génération, mais même moi tu vois à chaque fois je suis étonné, il faut le revoir, prennent bien conscience qu'il n'y a jamais eu de défenseur latéral plus fort que Manu Amoros dans le football français. Que je pense que dans le foot d'aujourd'hui, il joue attaquant droit, attaquant gauche, il joue où il veut.
Techniquement, c'est costaud.
Un joueur, mais non, mais à tous les niveaux.
Il avait des appuis
extraordinaires.
Un centre de gravité.
Manu Amoros, c'est fabuleux.
Il avait des bons coups de tête aussi.
À l'OM, ils l'ont eu. Il était bon, mais peut-être un peu plus tard dans sa carrière.
Un peu trop tard.
Je pense que c'est celui de Monaco qui est le meilleur. Et Coupe du Monde, Euro 84, bon, il se fait expulser dans le premier match, mais cette Coupe du Monde.
C'est le côté du Danemark, Euro 84.
Ouais. Mais il est incroyable. Vraiment.
Bizarre pour toi, non, ça arrive pas.
Pas à la cheville. Mais je te promets, sans lui faire. Mais en plus, c'est même pas un non-compliment pour Lisa, qui est un très très grand défenseur. Mais l'autre est tellement fort. C'est même pas insultant pour Lisa.
D'accord.
Vraiment pas.
Kurzawa.
Très bien. C'est bon. Franchement, il suffit de regarder, allez voir quoi.
Vous pouvez rester avec nous aussi
on fait les deux, nous.
Tout le monde n'a pas deux télés à disposition, Daniel. Tout le monde n'a pas tes moyens. Je le répète tous les matins.
C'est enfin la radio. Je sais que maintenant tu penses qu'il n'y a que la télé dans la vie, mais
il y a les deux.
L'after, c'est principalement la radio.
Oui, alors c'est assez compliqué quand même de faire les deux.
Non, tu peux mettre la radio et tu jettes un coup d'œil sur. En plus, c'est bientôt fini. Dans deux minutes, il y a les pénaux.
D'accord.
Moi je disparais la séance de pénaux, je disparais, je vous préviens.
Séance de pénaux.
J'imagine que tu donnes les 5 tireurs des deux côtés, Daniel.
Côté brésilien, je vais avoir plus de mal. Brésilien. Côté français, ouais, mais côté brésilien, moi je sais que Zico tire et marque, je sais que Socrates rate. Julio César l'envoie sur le poteau. Après donc ça m'en fait combien là?
3.
3.
Non mais déjà les Français.
Les Français.
Beau 6.
Le premier doit être Stopira.
Stopira. Bossis.
Il doit y avoir Giresse.
Giresse.
Non, Bossis tire pas.
Bossis tire pas?
Bah non, il est traumatisé de 4 ans avant. Donc après, tu as Amoros, il tire.
Ouais, Amoros
tire.
Tu
as Bellone. Platini, qui l'envoie dans les nuages. Ouais. Et Louis, qui met le dernier.
Très bien. Bon, voilà. Donc ça, c'était en 86. On va revenir à aujourd'hui. Donc, avec nos avis tranchés, avec également les drôles de dab, gros programme pendant une heure.
Et Louis, qui est le moins technique des Bleus.
Louis Fernandez est
peut-être le moins technique de l'équipe, mais il est monstrueux, Louis. Hein. Voilà, il est monstrueux. Lui aussi, il donne une leçon à plein de mecs dans les milieux de terrain qu'on a aujourd'hui.
Alors je précise à Louis, si tu nous écoutes, ne t'arrête pas au début de la phrase. Louis était le moins technique de l'équipe. Il y a eu une suite dans la phrase de Daniel. Évitons-nous quelques textos, quelques appels.
On a parlé mille fois de ce match ensemble.
Et oui, bien sûr.
Non, mais il est fantastique. Vraiment fantastique, Louis. Vraiment.
On revient à 2018, Daniel.
Oui. Allez, c'est parti.
On y va sur l'OM. Jingle rigolo.
Moi, j'ai joué au tennis le 28. Putain, je me suis fait un boxing day de tennis, mon vieux, là. Tout ce que tu fais entre Noël et jour de l'an, c'est du boxing day.
C'est boxing day.
Tu fais quoi, toi, au boxing day?
Il était chez Auchan, il a fait le boxing day de chez Auchan, lui.
Magnifique. Alors, Daniel, donc, tu veux revenir sur ce qui s'est passé hier, la défaite de l'OM face à Lyon, 3-2 à domicile, à nouveau dans un grand match. L'OM s'est donc pris les pieds dans le tapis. Et toi, tu veux revenir et insister, même si t'en as parlé hier, sur la préparation, sur l'avant-match.
Ouais, et je pense que aujourd'hui dans le foot, la donnée communication est très importante, bien plus que on peut le penser peut-être, ou on se dit c'est quelque chose d'accessoire qui n'a pas de répercussion sur ce qui se passe sur le terrain. Je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'aujourd'hui il n'y ait pas d'incidence entre ce qui se passe autour et ce qui est dit autour et ce qui se passe sur le terrain ensuite. L'OM a fait beaucoup de bonnes choses cette saison. Notamment être un acteur majeur de notre championnat alors que c'était pas couru d'avance, être encore et le dernier club français en course en Coupe d'Europe et ça non plus c'était pas couru d'avance. Est-ce que ce que je vais dénoncer à présent bien faire a pu leur permettre d'être encore plus fort? Je sais pas, mais en tout cas peut-être que certains virages auraient pu être mieux négociés. Ce dont je parle, c'est la communication qui est le dossier sur lequel l'OM doit vraiment travailler. Bon, ça commence cet été avec toute la com autour de l'avancante qui n'arrive pas et qui arrive. Et globalement, c'est assez foireux. Je fais un petit saut dans le temps et je vais jusqu'à Jacques-Henri Hérault avant la trêve et sa sortie totalement inattendue pour un type qui communique pas trop. Je vais pas trop loin à parler des paperboards de Jacques-Henri Hérault, de on va gagner la Coupe d'Europe. Je remonte pas, je reste vraiment...
Mais tu pourrais les mettre aussi dedans.
Oui, oui.
Mais bon.
Mais bon, déjà cette sortie sur l'arbitrage, genre, je vais me mettre un peu sur le même plan que Jean-Michel Aulas parce qu'il est bien entendu là. Pas question pour moi qu'on me réponde « Oui, mais les autres font pire ». Non, ce qu'il y a de bien dans la vie, c'est d'essayer de bien faire. C'est pas d'être aussi, d'être aussi bête que le voisin. Mmh. Tu vois, c'est pas parce que Jean-Michel Aulas fait tout le temps son cinéma là-dessus. Oui, Socrates vient de rater. Qu'on est obligé de faire pareil.
Bien sûr.
Et l'OM, d'ailleurs, ferait bien de se distinguer, de ne pas trop rentrer dans cette guéguerre qui est, en plus, je le crois, réellement voulue par Aulas principalement. Cette guéguerre avec l'OM. On a eu ensuite
et en plus si je peux te couper deux secondes, je pense que l'OM avec le
oui, tu peux bonifier mon avis tranché
avec moi, ça me dérange pas, j'espère que ça va le bonifier, que ça va pas le tuer,
mais je suis pas comme Jean Bretagne qui ne veut pas être interrompu.
Non, parce que lui il est au sommet, il peut pas être bonifié. Je pense que c'est la différence avec toi.
C'est pour ça. Non, mais en plus avec ce qu'affichent les Marseillais sur le terrain, ou ce qu'ont affiché les Marseillais sur le terrain, en plus ils auraient tout à gagner justement à prendre de la hauteur au niveau de la com, parce qu'il y a un état d'esprit collectif sur le terrain qui est très très bon. Voilà, je vais m'arrêter là, mais qui est très très bon, et ça ne nécessite pas d'aller faire des pleureuses ou quoi que ce soit à l'extérieur.
Avant les deux matchs contre le PSG, là pareil, totalement incompréhensible la façon que le club a de communiquer. Bon, ils prennent une tôle le premier match, ils sont vraiment pas à la hauteur de l'événement. Sur le deuxième, gestion de match, pareil, communication post-match. J'y reviendrai sur le phénomène Rudy Garcia. Là, pareil, on comprend pas. Et on arrive à ce match qu'on attendait depuis des semaines. On en parlait. L'OM est dans une période excellente. Vraiment. Lyon est dans le trou. Il n'y a pas du tout besoin de se mettre la pression. Il y a besoin de rester très calme, de bien gérer les émotions. Tu sors d'un match de Coupe d'Europe qui a été exemplaire. Très bon. Il faut rester calme, surtout pas motiver l'adversaire, le laisser dans sa mouise, là où il est en train de mijoter, de gamberger, parce que rien ne va pour lui, il s'est tapé la honte, alors que toi, t'as été encensé jeudi. Non. Tu fais des déclats extravagantes, que j'avais pas entendu depuis très très longtemps, hein. Le côté on va les exploser et tout, je trouve ça dingue. Bon. Et encore une fois, si des gens pensent que ça n'a pas de conséquences, ils se trompent complètement.
Bien sûr que
ça a énormément de conséquences. Ça a mis de la nervosité, ça a mis une mauvaise pression, même sur l'OM.
Et une bonne sur Lyon.
On en revient. Ouais, bah là, c'est exactement comme si tu leur disais, bon, bah, de toute façon, là, vous êtes complètement dans le trou, on va vous mettre la tête sous l'eau. De toute façon, c'était leur dernière chance de faire quelque chose. Il fallait évidemment s'attendre à une réaction de leur part. Ils pouvaient pas s'enfoncer indéfiniment. Il y a quand même deux, trois bons joueurs dans cette équipe. On n'est pas en train de parler des derniers non plus, tu vois, voilà.
Il y a rien de plus élémentaire que ça. Tu colles ça dans le vestiaire et ça marche. Ça marche toujours un peu.
C'est la base en sport. Ça marche toujours un peu. Les mecs tombent dans le panneau, là-dedans. On arrive j'arrive au post-match. Thauvin pète complètement un câble, qui raconte n'importe quoi. Là, on dirait le sous-fifre d'une bande mafieuse. Là, il le perd, c'est ridicule. On parle même pas du pétage de plomb. Bon, après, chacun a envie de dire ce qu'il veut sur la baston qui a commencé, qui a pas commencé. C'est grotesque, mais bon, il me semble quand même que Rami est pas exempt de tout reproche. Je peux me permettre de le critiquer de temps en temps. Rami, je l'aime beaucoup, j'en dis toujours du bien, mais il faut un peu rester objectif aussi.
Il paraît être à l'origine, là.
Voilà. T'as pas abordé Garcia contre l'arbitre.
Et j'arrive, conclusion. Ah, voilà. Lui, ça ne sont pas des points. Tu sais, il n'y a pas des points comme foireuse avec lui. Lui, c'est un continu.
Bah, il est régulier.
Et moi, je vais prendre un risque. Je vais vous dire un truc. Et je suis convaincu. Et s'ils veulent dire qu'ils ne sont pas d'accord avec moi, je les invite à téléphoner. Mais je suis convaincu que la grande majorité des Marseillais ne l'aiment pas. Je suis convaincu. J'ai pas fait de sondage. J'ai pas demandé. Mais je pense humblement connaître très bien les Marseillais.
Ne l'aime pas ou n'aime pas sa com?
Il ne l'aime pas, et lui et sa com.
D'accord.
J'en suis convaincu. Les Marseillais, évidemment, sont lucides pour voir que les résultats sont là et qu'il y a très longtemps que Marseille n'a pas vécu une aussi belle saison. Mais je suis sûr que la grande majorité des supporters marseillais n'aiment pas.
Parce qu'ils n'aiment pas qu'on leur raconte des histoires.
Parce qu'ils le voient arriver.
Et les Marseillais, ils discutent assez d'arbitrage comme ça, à se plaindre, à jouer les grandes gueules et tout. Ils n'ont pas besoin que leur entraîneur fasse ces comédies et ces cinémas-là. Je suis convaincu que c'est pas leur genre.
Ces déclarations d'après-match. Rappelle-toi l'histoire de la meilleure défense quand on enlève les matchs qui est trop dur encaissé.
Ils connaissent un peu le ballon.
C'est ce que je vous dis. Ils le voient venir.
Ils sont pas pris pour des cons. Tu leur racontes pas des histoires pareilles. Ok, qu'il y ait une base de mecs un peu simplets qui vont marcher à ça. Mais moi, je parle de la grande majorité. Je suis convaincu qu'ils n'aiment pas Rudy Garcia, qu'ils n'aiment pas ce qu'il dit, ce qu'il véhicule comme image du club. Ces débriefs d'après-match incompréhensibles, ces chouineries interminables sur les arbitres qui sont, mais insupportable hier, mais c'était mais en dessous de tout, du nullissime tout ce qu'il a dit. Et j'espère, c'est ma conclusion, j'espère que ça ne va pas leur coûter cher pour la fin de saison, parce que mine de rien, l'OM c'est un petit peu comme Lyon, quoi. C'est un peu fil de rasoir aujourd'hui. Ils peuvent, parce que ça commence à devenir chaud maintenant, la Coupe de l'UEFA, enfin l'Europa League, se faire sortir. S'ils terminent quatrième, bah c'est dommage, parce qu'il y a tellement eu de belles promesses que ce serait un peu décevant. Et si le match d'hier, ou au moins, même si tu te foires, tu dois pouvoir faire match nul et garder tes distances avec Lyon, à l'arrivée perdre à domicile contre Lyon, c'est une bonne grande claque dans la gueule que l'OM aurait pu éviter, je pense.
J'ai une petite question en avant de te donner la parole,
et ça Pierre. Aussi responsabilité Garcia.
Et avant de donner la parole à Mathieu.
Oh là là, Michel Platini embrasse le ballon.
Non mais je le sens
et
pas.
Et la tribune.
Platini. Ouais, juste sur la course d'élan, je peux te dire qu'il va. Ça
la
va
course d'élan, elle est bonne. Tout
non,
est
non,
bon.
Non, je pense que ça va pas. Dans son visage, là, j'ai vu dans son regard qu'il allait pas. Tu vois, il cadre pas.
C'est incroyable. Bon, c'est fou, pas qu'il cadre pas, c'est qu'il la met dans les nuages.
C'est fou. Alors juste dans ce que t'as dit, Daniel, moi j'ai une question quand même sur Zambanguissa. J'ai toujours pas la réponse. Pourquoi il a pas joué?
Je ne sais pas.
Est-ce que la meilleure stratégie? Parce que là, on a l'impression que c'est une punition de la part de Garcia. T'as trop parlé avant.
Non,
pas
moi
jouer.
Je pense pas.
Est-ce que la meilleure stratégie,
non, attends,
c'est pas de le prendre?
Zambanguissa n'a pas démarré non plus jeudi. Hein.
Oui, moi je pense pas que ce soit alors, une sanction par rapport
c'est
à ça.
Donc c'est qu'il s'est préparé pour jouer. Enfin, je sais pas.
Non, mais est-ce que la meilleure
stratégie, justement dans la gestion des émotions et tout, c'est pas de lui dire bon, voilà, tu l'as ouverte, et ben maintenant je te mets sur le terrain,
oui,
assume
sauf
et montre que t'es un bonhomme.
Sauf que peut-être Garcia ne voulait pas jouer avec lui tout simplement. Il voulait jouer avec Lopez et voilà, basta. Donc tu changes pas tes titulaires parce qu'il y en a un qui l'a ouvert dans la presse avant le match.
Excusez-moi une chose. Vous avez plus de souvenirs de mecs qui chambrent avant le match et qui se font claquer le beignet ou de mecs qui chambrent avant le match et qui réussissent et qui gagnent?
Oui.
C'est un classique.
Bien sûr que non.
On parle
le
PSG l'année dernière après le Barça, le 4-0. Il y a deux trois énergumènes de l'équipe qui se sont permis de chambrer un peu.
C'est vrai. Non, qui sont trop dans le confort.
Arrogant, un petit peu arrogant.
Voilà,
évidemment, de qui on parle.
Exactement.
Évidemment, on parle de qui? Kurzawa. Des mecs comme Rabiot, Kurzawa, c'est pas la première fois. L'histoire contre la.
Enfin,
c'est une affaire de mentalité. Dans le sport de haut niveau. Alors, dans l'après, le chambrage d'après, c'est un peu ce qui s'est passé hier soir. C'est ce qu'on avait vu avec le maillot de Fekir.
J'allais te dire, même le chambrage pendant, il est dangereux.
Voilà.
Même le chambrage. Et pourtant, voilà, moi, j'en ai fait aussi. On a tous fait sur le terrain.
Pierre,
parce qu'à un moment donné,
je leur dis pas, faites-le. Je leur dis pas, ne le faites pas. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie.
Mais c'est dangereux.
Mais souvent, ça te retombe sur la gueule. Abstiens-toi, putain.
Bien sûr.
Abstiens-toi, ouvre pas ta gueule avant. Parce que dans le sport, c'est vraiment le truc qui motive l'autre à mort. Basique,
je dis pas que c'est simple à faire parce que des fois dans la tension, dans le match t'as du mal, mais le fermer sa gueule tout un match, excusez-moi de l'expression.
Oh putain, attends Pierre, Louis.
Oh Louis.
Louis.
Lui je le sens bien.
Oh ah, ça y est. Là, il ferme le pied, il croise.
Et voilà. Enfin, il les connaît par cœur ces images.
Et voilà.
Exactement. Non,
alors je disais c'est très dur à faire, mais il y a rien de plus jouissif quand tu joues un match de foot en plus où il y a de la tension, où tu te tais tout le match, où ton adversaire justement est un peu dans le chambrage, etc. Et où à la fin tu lui mets et où t'as juste un geste pour lui, quoi, juste un regard ou juste un signe de la main, allez, 2-0 ou 2-1 ou. Il y a rien de plus justif sur un terrain de foot. Nous on a rien dit, mais on a été plus fort.
Alors sur les provocations et tout sur la fin de match, on a quelques infos à vous donner aujourd'hui. On va donner la parole à Mathieu au 32-16 supporter marseillais. Mais avant cela, les directs. Il y a Brest-Nîmes, un match de Ligue 2 ce soir. Ça se passe.
Et oui,
à Brest.
Il y a les Nîmes. Hein.
Ils vont y aller, Nîmes, sans doute. David Filippo est sur place. Salut, David.
Salut, Jean-Louis. Salut à tous. 78 minutes de jeu. Effectivement, Nîmes est très, très bien parti ce soir au stade Francis Leblay puisque les Nîmois mènent 2-0 grâce à Umut Bozok à la 34e et Anthony Briançon à la 48e. Énormément de temps mort dans le jeu et de le jeu extrêmement haché. Beaucoup de cartons jaunes, beaucoup de tensions ce soir parce que c'est vrai que si les Brestois perdent ce soir, c'est terminé a priori pour la Ligue 1. En revanche, comme tu l'as dit, Daniel, Nîmes file tout droit vers la Ligue 1 avec cette victoire, même si ça ne sera pas encore fait de manière comptable. 2-0 donc après 78 minutes de jeu pour Nîmes ici à Brest.
Merci David, on suit un match de Pro A également entre Chalon-Reims et Le Mans, 75-74 pour Chalon-Reims dans le quatrième carton. On est quasiment à la fin de la rencontre. Sur la fin de match houleuse et le retour dans les tribunes, Florent Germain a enquêté aujourd'hui, notre correspondant à Marseille. Bon, en gros, on avait détecté tout ça hier soir, mais les Marseillais sont vexés par le chambrage, notamment de Marcelo. Les Lyonnais, eux, s'en prennent à Adil Rami, qui a mis le feu aux poudres avec son coup contre Marcelo. Les délégués de la Ligue, ça c'est une info d'aujourd'hui, ont demandé donc immédiatement les vidéos dans le cadre d'une enquête. Les dirigeants marseillais sont aussi en train de récupérer un maximum d'images et de vidéos. L'une d'elles, notamment, montre Anthony Lopez, qui donne le gardien de but une claque à un intendant de l'OM. Donc voilà ce qui est, c'est a priori le seul échange de coups dont il y a une vidéo et qui pourra peut-être donner une suite. Donc voilà pour les infos du jour. Mathieu nous rejoint au 32-16, supporter un Marseillais dans l'after sur RMC, sur BFM Sport. Salut Mathieu.
Salut, bonsoir à tous.
Ben, ça va Mathieu? T'as entendu l'avis de Daniel?
Ouais, j'ai entendu. Ben, moi, je suis d'accord avec lui. Il faut arrêter de parler, ou sinon, quand tu parles avant, faut être sûr de gagner. Et vu qu'on se, il y a pas d'autre mot, qu'on se chie toujours dessus quand on parle, faut arrêter au bout d'un moment, quoi.
Ouais. Alors, tu dis, on se chie dessus. C'est vrai qu'il y a un problème mental. T'as envie peut-être d'insister là-dessus parce,
oui,
que,
parce que c'est une expression.
Ah,
hein,
oui, bien
oui,
sûr.
C'est un problème mental, bien sûr.
Bien sûr. Non, mais parce que il y a une différence, je trouve, entre les Marseillais qui se font une montagne de la phrase de l'un de leurs partenaires qui pourrait exciter l'adversaire, et les Lyonnais qui, eux, pour le coup, mentalement, il y a des mecs. Enfin, je veux dire, Depay et Mariano, on peut leur reprocher plein de choses, mais mentalement, ils restent dans leur match jusqu'au bout, même s'ils ont raté
moi,
plein de choses avant, même si la situation fonctionne pas.
Moi, j'ai pas compris Anguissa, pourquoi ils sortent ça maintenant. Ils étaient au fond du trou au Lyon, et c'est bien un moyen de les débooster, c'était de faire une déclaration comme ça. Ça me fait penser à l'époque du Grand Marseille, quand le président de Paris, il avait dit on va leur marcher dessus, et que Tapie avait affiché les journaux en gros pour les motiver, c'était pareil.
Ça marche toujours.
Tu l'expliques, tu sais que leur saison elle était morte.
Et au-delà, Europe, Mathieu, de Zambo Anguissa, les propos de Garcia sur l'arbitrage, Daniel disait,
moi j'en peux plus de Garcia.
T'en peux plus de Garcia, d'accord.
Ah non, moi j'en peux plus de ses déclarations. C'est comme Wenger, c'est comme Ola, c'est jamais de leur faute. Ils se remettent jamais en question. C'est la faute du terrain, la faute des maillots, la faute du ballon, la faute de la pelouse, des supporters. C'est jamais de ta faute. Au lieu de dire, je me suis trompé sur la composition d'équipe, sur Maxime Lopez, ou pas donner un nom, parce que là tu le tues si tu fais ça en donnant un nom, mais dire l'erreur est pour moi, on n'a pas été bon, et toujours sortir des excuses au bout d'un moment, c'est insupportable.
Ouais. Écoute, tu es plutôt d'accord avec nous tous, Mathieu. Merci d'être venu dans l'after. À bientôt.
Bien,
Mathieu. Salut Mathieu. Avis tranché de pierre à venir sur le Stade Rennais. Le club qui prend forme, qui progresse bien. On va voir jusqu'où ils peuvent aller. Tu vas nous dire tout ça dans quelques secondes dans l'after sur RMC, sur BFM Sport. À tout de suite.
RMC, le super football show, l'after foot, Jean-Louis Tour.
Avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot dans l'after, comme tous les lundis, les questions de l'after à venir, avec un peu donc de Lille, un peu de Verratti, un peu d'Mbappé dedans. Les drôles de dames. Comment ?
Un peu de Lyon.
Si tu veux.
Ouais. Quand même.
Alors, vous avez pas fait le tour hier ?
Je sais pas.
Si t'as des choses en plus à dire,
il a quelque chose à dire, Daniel.
Non,
tu diras juste Lyon.
Ouais,
il continuera.
Non, mais y a pas de problème. Et puis les drôles de dames à partir de 23h. Mohamed Salah, ce sera l'avis tranché de Philippe Auclair. L'Atlético pour Fred Hermel. Icardi pour Simone Rovera. Leipzig avant leur match face à l'OM pour David Lorto. Mais tout de suite, 22h28, juste avant l'avis tranché de Pierre Ducrot, on retourne à Brest. Les dernières minutes entre Brest et Nîmes. David Philippot.
La 86e, et on file tout droit vers une nouvelle victoire nîmoise, les Nîmois qui mènent 2-0, les buts de Bozok à la 34e et Briançon 47e, une occasion à l'instant pour les Brestois par Fossurier, mais le ballon a fini dans le petit filet extérieur du but de Nîmes de Valette, 2-0 donc pour Nîmes après 86 minutes de jeu ici à Brest.
Merci David. Par ailleurs, je vous annonce la fin du match donc entre Chalon-Reims et Le Mans, match que l'on suit depuis le début de la soirée donc sur RMC et sur BFM Sport. Il me semble que c'est bien Chalon-Reims qui a gagné 75-64. Ah non, finalement, c'est Le Mans qui a gagné 76-75. Ils ont mis un dernier panier à la dernière seconde. Donc
je sais pas s'ils ont tout compris.
Si, si. Le Mans s'est imposé 76-75 sur le parquet de Chalon-Reims. Super. Avis tranché.
Non, pas Antares.
Ah non, c'était pas Antares, là. Et il connaît une salle de Pro A. De JP Elite, pardon.
Non,
il nous
la sort à chaque fois. Non, la salle de Limoges.
Limoges, Beau Blanc.
La salle du CSP. Beau Blanc, oui. Bravo.
Et avant, c'était La Moutette.
Mais non, on a porté encore.
Ah ouais, parce que moi, ça fait, ça fait 41 ans que je connais Beaublanc.
Oh, le raté, terrible.
Ah oui, non. Demande sur basket, je suis très connaissant.
Ah bon?
Ouais, j'aime bien.
Je regarde plus, mais je m'y connais.
Ah oui, d'accord.
Non, mais je suis à une époque, quoi, voilà.
Ah, ça veut dire que tu as bossé dans un journal de basket.
Non, pas du tout,
truc.
Ça change. Ah bon. Il y a des moments où tu t'intéresses beaucoup à un truc et après un peu moins. Mais il t'en reste 2-3 souvenirs.
T'as arrêté
quand même.
Où à Jordan et Pippen?
Bah, un peu après.
Ah ouais. Voilà. Très bien. Pierre, t'as eu d'autres sports dans ta vie?
Ah, moi, j'adorais le basket. Ouais.
Ah, voilà.
Je regardais la NBA, ouais, effectivement, à l'époque de Jordan, Pippen,
magnifique.
Rodman, etc.
Et aujourd'hui, tu veux parler de Stade Rennais après la NBA, ouais, donc le Stade Rennais. On y va, jingle du croc.
Mais moi, si je suis coach de Lyon là aujourd'hui, je me bouffe les couilles. J'ai dit ça, moi.
Ah bah oui.
Alors, Pierre.
Après, là, du coup, aujourd'hui, c'est plus valable.
Non, effectivement. Tu veux parler donc du Stade Rennais. Alors, je disais, il y a une période où on en parlait beaucoup dans l'after. Là, on nous dit, depuis le début de la saison, vous parlez pas beaucoup des clubs, hormis Paris, Lyon, Marseille.
Oui, enfin, ça, c'est toujours
comme
pareil.
D'habitude. Et bah là, ça y est, ça tombe. On parle du 5e de Ligue 1 du Stade Rennais. Qu'est-ce que tu veux dire, Pierre?
Ouais, alors, je retourne pas ma veste, hein. Je crois toujours à l'OGC Nice, ouais. 6e, 5e de la Ligue 1. Mais je voulais parler du Stade Rennais, parce que justement, comme Nice, peut-être, le Stade Rennais a remis quelques valeurs, quelques basiques au milieu de sa politique sportive, mais pas que sportive d'ailleurs, hein, ça englobe tout. Une fois de plus, ça paraît fou, hein, ça devrait être une évidence de dire qu'en remettant de la rigueur, de l'exigence, le travail au centre des priorités, de remettre des connexions positives entre les, et je prends ces deux mots exprès parce que c'est les mots de l'intéressé de mon avis justement, et c'est les mots qu'il utilise, et c'est pas un hasard, des connexions positives entre tous les employés et salariés du club, pas uniquement joueurs et staff, tout ça rendu possible parce qu'il y a une autorité, il y a une hiérarchisation des pouvoirs qui fait qu'on protège l'institution. L'institution, c'est le club qui est en haut de tout ça. Ça aussi, ça paraît fou, ça devrait être une évidence, mais ça l'est de moins en moins, en tout cas dans de moins en moins de clubs. L'institution là-bas à Rennes, c'est le club, mais c'est Monsieur Pinault, forcément, c'est le patron, c'est le propriétaire. C'est la première fois depuis très très longtemps, et la première fois tout court d'ailleurs, je pense, qui met une personne qui est issue du milieu du football. Je dis pas que ça doit tout le temps marcher forcément comme ça, parce qu'il y a sûrement plein d'exemples qui nous prouveraient le contraire. Mais je dis que pour Monsieur Pinault et le Stade Rennais, c'est une réalité. Il n'y a jamais eu une personne issue du milieu du football, en l'occurrence là Olivier Létan, qui a été mis à la tête de ce club, à la présidence de ce club. C'est quelqu'un qui connaît le football, c'est quelqu'un qui connaît les joueurs de football, et c'est quelqu'un qui est passé par le Paris Saint-Germain où il a été beaucoup critiqué, sauf qu'on oublie à chaque fois de dire qu'au Paris Saint-Germain, justement, cette institution, cette autorité suprême qui doit y avoir au-dessus d'un directeur sportif pour qu'il puisse lui avoir une autorité sur des joueurs, elle n'existait pas. D'ailleurs, elle n'existe toujours pas. J'ai souvent entendu aussi Olivier Létan, c'est la taupe au PSG. C'est marrant, il n'y a toujours pas d'autorité au Paris Saint-Germain. Et il y a toujours plein d'infos qui sortent des vestiaires et qui sortent aussi du siège du PSG. Donc cet homme-là qui a, pour moi, été critiqué un peu trop vite ou un peu trop au Paris Saint-Germain, même si peut-être que tout ce qu'il a fait là-bas n'a pas été parfait, j'ai l'impression quand même que dans un club où il est en haut,
oui,
depuis pas si longtemps que ça finalement, en remettant juste quelque chose de basique, c'est-à-dire des valeurs de travail. On n'arrive pas à un quart d'heure de la séance d'entraînement, parce que c'est comme ça que ça marchait un petit peu au Stade Rennais, ouais, ces derniers temps, avant que qu'Olivier Létan arrive et mette son staff aussi, bien sûr, c'est avec le staff qu'il fait ça, bien entendu, en place. Maintenant, on arrive avant, on arrive bien avant, on se pèse accessoirement pour savoir si on n'a pas des kilos en trop, et si on en a en trop, on n'est pas performant, donc on en perd. Ça aussi, c'est un peu fou, mais c'est pas partout, ça marche pas partout comme ça maintenant. Les connexions positives dont je parlais, et pour en avoir discuté avec lui, c'est pas juste joueur coach, c'est président joueur, c'est président salarié, c'est salarié joueur. Tout le monde est concerné dans ce club. Quand il y a des séries positives ou quand il y a des résultats positifs, on récompense tout le monde. Je dis pas qu'Olivier Létan donne des primes de match à tout le monde, à tous les salariés du club, hein. Sinon le club va avoir peut-être un peu de mal. Mais par contre, il sait récompenser les gens du club. Quelqu'un qui travaille aujourd'hui au Stade Rennais,
doit être fier de pouvoir emmener ses enfants, sa femme et des amis au stade. Ouais. Et ben c'est rendu possible. C'est con, okay. Excusez-moi du mot.
Donc il a changé pas mal de choses basique. Concrètement au quotidien.
Il a changé plein de choses.
Il a remis de la rigueur et de l'exigence aussi.
Et voilà. Et c'est pour ça que mon avis tranché s'appelait Stade Rennais des basiques, parce que c'est finalement des basiques. Je dis pas que c'est simple. Attention. Mm-hmm. Surtout aujourd'hui dans le milieu du football. Je dis pas du tout que c'est simple. Je dis que ça devrait être une évidence, mais qu'aujourd'hui ça ne l'est pas partout et que juste en faisant ça, le Stade Rennais, me semble-t-il, va pouvoir peut-être, parce qu'il y a tout le reste au Stade Rennais. Il y a des supporters, il y a des structures d'entraînement, il y a un centre de formation qui est en train aussi d'être remis avec ses mêmes valeurs de travail un petit peu au goût du jour. Il y a tout le reste, quoi. Il y a des structures, il y a un vrai stade de foot. C'est une vraie région de football. Il y a tout le reste. Donc il manquait que ça au Stade Rennais et je me demande moi si c'est justement pas le moment pour le Stade Rennais de s'installer durablement en haut de la Ligue 1 grâce à ça. Et de s'installer grâce à ses valeurs, ça va donner le droit à ce club, à un moment donné, s'il y a un joueur qui sort des clous, parce qu'il y en aura forcément un jour, ouais. Et ben de sanctionner très durement et très sévèrement. Et puis aussi, accessoirement, si jamais il y a des mauvais résultats un jour, parce qu'il y en aura forcément, et ben de demander à tout le monde de travailler plus, travailler encore, encore et encore.
Pour gagner plus.
Ben pour gagner plus
et pour gagner surtout.
Non mais ce sont des valeurs simples.
T'as cru à ce slogan, Daniel. Hein.
Ah là ce là, sont des valeurs simples. Mais ce sont des valeurs simples, mais pas faciles à inculquer aujourd'hui dans le football. Et moi, j'adore ça. Et pour avoir rencontré Olivier Létang, en avoir discuté avec lui, bah ça sent bon, je trouve, pour le Stade Rennais.
Rennes 5e, donc avec 45 points, un point d'avance sur Nantes. Et au niveau des dynamiques, il semble que les Rennais soient quand même les mieux lancés, puisqu'ils sont sur 4 victoires sur les 6 derniers matchs. Daniel, qu'est-ce que tu penses du tableau?
Je savais même pas que tu l'avais rencontré ouais. Avant de décider de mon ami tranché, tu vois.
Ça tombe bien. Mercredi dernier que j'y suis allé, effectivement, que le premier que j'ai vu, c'est Sabri Lamouchi dans son bureau. On a discuté un petit peu. Moi, c'est la première fois que je le rencontrais vraiment. J'ai toujours un a priori très positif sur lui, que cet entretien a confirmé dans sa disponibilité. J'ai vu les temps.
Mais ça aussi, le choix de Sabri Lamouchi, il est pas
les temps pour l'interview. J'ai croisé Sylvain, Armand aussi, mm-hmm. On discute un petit peu. Moi, en fait, évidemment que je veux y croire, que je les entends et que Lamouchi, vu ce qu'il a connu à l'étranger, forcément il sait ce que c'est que le haut niveau, l'exigence et ce qu'il faut faire. Mmh. Les temps, on n'en parle pas, évidemment aussi. Même Armand, dans un autre rôle, ouais. Les années qu'il a passées au PSG, il a bossé avec Ancelotti, il en garde encore un énorme souvenir. Moi, ce qui me rend un peu perplexe et également un petit peu fou, c'est qu'on parle encore de ces sujets en 2018. Quoi.
Ouais, mais c'est ce que je te dis, ça devrait être une évidence.
On parle encore en 2018 de mecs qui doivent arriver à l'heure à l'entraînement. J'imagine que t'as eu le droit aux mêmes anecdotes que moi sur des mecs trop gros, sur des mecs qui s'entraînent pas bien. Voilà. Et ça, le truc, c'est qu'on l'entend dans plein de clubs, mais que rien n'avance.
Ouais, parce que c'est pas simple à remettre en place.
Que rien n'avance. Matuidi se barre à la Juve et le premier truc qu'il dit, putain, je bosse plus, l'institution est plus forte. Putain, mec, il sort du PSG où on s'est dit, il y a quand même Ancelotti qui est passé, il y a quand même un tel qui est passé, merde. Enfin,
ouais, mais Daniel, parce qu'il faut que toutes les composantes
il m'arrive parfois d'être désespéré et de me dire, on va jamais y arriver, en fait, en France. On va jamais y arriver. Parce qu'à chaque fois, on met en place un truc, là, à Rennes, c'est en train d'être mis en place. Et quand il me parlait, évidemment que je les suivais, que je les écoutais, que je les soutiens.
Ouais, ouais.
Et que je me dis, mais est-ce qu'ils vont vraiment y arriver? Ou est-ce que dans un an, ce sera fini? Que d'autres vont arriver, vont dire, on a remis de l'ordre, on a remis de l'exigence. Ouais. Et c'était les vacances. Là, le prochain, c'est qui? Ça va être Bordeaux? L'autre club?
Ah oui.
Où tout part, où tout fonctionne à l'envers.
Ouais, ouais.
Donc on attend une nouvelle direction à Bordeaux.
Enfin, Poyet était censé incarner ça. Hein.
Pour entendre.
Oui, mais
il est en train de changer tout le staff.
Sauf que Poyet, il faut un groupe de joueurs qui soit prêt à recevoir le dialogue. Poyet, il faut un président aussi.
Attendez, excusez-moi. Bordeaux, on y revient tout à l'heure dans la question de l'after. Restons sur Rennes.
Non mais ça rejoint ça. C'est quasi fini. On est voilà. En fait, on entend ces discours qu'on entend pratiquement tout le temps quand il s'agit de nos clubs.
Mais on a l'impression que les choses ont été faites en profondeur quand même. Tu vois, ça part du haut avec l'entraîneur.
Mais c'est fragile.
Ça part d'en haut. Ils viennent d'arriver. Ils vont vite. Pendant 20 ans, ça va faire. On est, je crois, 20e anniversaire de l'arrivée de Pinot, je crois. On doit en être là à peu près, un truc comme ça. Un type aussi brillant, aussi important dans l'économie de notre pays. Ok, bah il connaissait pas le foot, visiblement. En tout cas, ça n'empêche pas d'être passionné de foot. Donc pendant 18 ans, il n'a nommé ou 19 ans, il n'a nommé que des nulos. Donc là maintenant,
tu sais quoi,
enfin,
Daniel, je sais pas
après
si c'est
tout ce temps-là, il y arrive. Ok.
Tu sais quoi, Daniel, je dirais pas des nulos. Je pense qu'il avait pas compris. Ouais, je pense qu'il avait pas compris que effectivement un club de foot est une entreprise, mais une entreprise très particulière. Et il avait pas compris ça.
Le truc, c'est qu'on l'entend tout le temps.
Sauf que des gens qui viennent de l'extérieur n'en ont pas forcément conscience.
Moi, je crois, j'ai parlé mille fois foot avec Olivier Létang. Je sais ce qu'il pense et je sais ce qu'il faut faire. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Aucun doute sur le fait qu'il sache, exactement comme la Mouchi. Parfois, le problème d'un club en France, c'est que ça va un peu au-delà de ça. Rennes, il y a encore un an et demi, quand ils ont fini la saison en perdant 6 matchs, alors qu'ils étaient très bien placés en avril, je crois. Bon, c'est la saison où il y a Roland. Au moment où ils perdent tous leurs matchs, il y avait des gens au club qui étaient contents.
Ouais.
Parce que c'est pour ça qu'on voulait qu'un nouvel entraîneur arrive, un nouveau projet se mette en place, tout ça. Et voilà, maintenant je me dis, bon, Bordeaux, qu'est-ce qui va se passer? Nantes, ça se passe comment quand Ranieri, qui est, il semble être le gars qui tient un petit peu tout le monde?
Oui, ça c'est sûr, si les hommes changent.
Le truc, c'est qu'il ne faut pas que ça tienne, en fait, il faut pas que ça tienne à un ou deux mecs.
Non,
il faut c'est presque pas assez, en fait.
De profondeur.
Il faut donner la parole à tout le monde. Il faut que l'institution soit à la tête de tout ça.
On va donner la parole à Pierre, supporter rennais, dans une seconde. Avant ça, c'est fini en Ligue 2, entre Brest et Nîmes, David Filippo.
Ouais, c'est terminé. Victoire nîmoise, 2-0, ici à Brest. Des buts signés Umut Bozok à la 34e, son 22e but de la saison, et Anthony Briançon à la 48e. Nîmes conforte sa deuxième place en Ligue 2.
Briançon est pas un peu enveloppé quand même?
Ouais, il avait l'air sur l'image qu'on vient de voir. Mais vas-y, termine David quand même.
Il fait une très très bonne saison.
T'étais sur le classement, David?
Ouais, et Brest 9e qui a quasiment fait une croix sur la montée en Ligue 1. En revanche, Nîmes est toujours deuxième.
Merci David, à plus,
bonne,
les gars.
Soirée. Bonne soirée.
Ciao, ciao,
bonne soirée.
Pierre nous rejoint, supporter rennais au 32-16. Salut Pierre.
Salut.
Bon, comment tu envisages l'avenir, toi?
Alors moi je l'envisage, j'imagine que tout va bien en ce moment au stade rennais. Alors on a souvent eu ces cas de figure les dernières années, mais là je sais pas, je trouve que c'est même un tournant qui est encore plus important que les finales de coupe. Je pense qu'on veut vraiment passer un palier parce qu'on a vraiment des personnes compétentes pour l'instant. Ce que j'apprécie, c'est le travail de Sabrina Mouchi, Arrigo Sabri.
Ah oui, d'accord, j'aime bien,
c'est drôle.
L'état d'esprit, c'est surtout ça qui est à noter. Il est irréprochable des joueurs. Il lâche rien et c'est vraiment là la force du Stade Rennais cette saison. On a des grosses individualités, mais on a surtout un état d'esprit collectif qui est très important. On va chercher les résultats, on est solidaire. Je trouve que c'est vraiment. Je vais pas faire de plan de comète sur la fin de saison parce que j'imagine que Nice est plus favori que nous pour la 5e place. Mais c'est vraiment un tournant très important dans le Stade Rennais pour moi.
Ce qui est le plus important finalement, c'est pas que vous terminiez 5e, 6e, même si ce serait bien. Le plus important, c'est que justement ces valeurs là dont on parle puissent s'installer et soient comme le dit Daniel, soient vraiment pérennes, quoi, soient dures dans le temps, parce que la 5e, la 6e place, si ces valeurs là durent, vous les aurez l'année prochaine, vous aurez peut-être même mieux l'année prochaine avec ces valeurs là. Donc c'est pas trop le résultat immédiat qui compte, moi je pense.
Merci Pierre, à bientôt dans l'after sur RMC. Et si moi j'ai un petit bémol à mettre sur Rennes, j'attends de voir, sans faire de
c'est
procès
les
d'intention,
les galettes aussi,
avant
pas ça.
Non, plus sérieusement, ce que va faire Olivier Létang au prochain mercato, au prochain marché des transferts, on sait que c'est un ancien agent de joueur aussi,
il y a des virages.
Attends, laisse-moi finir quand même. Juste, il a gravité aussi dans une entreprise d'agents de joueurs, et j'espère quand même que le club va se structurer aussi avec une cellule de recrutement et pas juste se reposer sur le carnet d'adresses d'Olivier Létang pour faire venir les joueurs.
Il a mis de l'ordre et des gens en place à ce niveau-là.
D'accord,
aussi. Non, mais ça
d'abord, oui, je suis d'accord avec toi. Deux, c'est une intersaison qui est compliquée parce qu'il y a énormément de joueurs dans ce club et il faut en mettre dehors plein, ce qui sont sous contrat, ça va pas être simple. Il va falloir renforcer l'équipe, le budget est pas dans les plus importants de France.
Ils ont un petit peu quand même de quoi faire, faut pas se tromper. Mais
c'est prometteur, mais attention, voilà, faut bien gérer les moments clés qui arrivent.
Ah, c'est pour ça que je dis que c'est toujours très très fragile, mais il le sait aussi.
Tu voulais parler de Bordeaux, Daniel? De zéro à chaque fois.
On le fait dans un instant sur les questions de l'after. Vous savez que j'aime bien mes questions autour du choc psychologique.
On aime bien aussi.
On a l'impression qu'il est peut-être fini le choc psychologique. Ça y est.
Moi, rappelez-vous ce que je vous avais dit.
Je sais, c'est pour ça que j'en parle. Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC, le Super Football Show, l'After Foot, Jean-Louis Tour.
Daniel Riolo est là, Pierre Dupont également. C'est l'After jusqu'à minuit. À partir de 23h, les drôles de dames seront là, à dit trancher notamment de Philippe Auclair si vous êtes fan de Liverpool ou fan du football égyptien. Ben restez là puisque ce sera consacré à Mohamed Salah. Dans la vie tranchée donc de Philippe, il y aura ceux des autres drôles de dames tout à l'heure. Les questions de l'After, comme tous les lundis. Première question sur Kylian Mbappé, avec cette expression qu'on utilise souvent avec les enfants. Est-ce qu'Mbappé file un mauvais coton? Je rappelle, attention, il faut des réponses courtes. Hein. Mais entre son agacement, ses râleries sur le terrain et, je t'entendais Pierre en parler hier soir dans l'after, le fait qu'il n'écoute pas Unai Emery quand il lui demande de se replacer, est-ce que dans l'attitude vous trouvez qu'Mbappé file un mauvais coton? Ou est-ce que tout cela...
Malheureusement, c'est pas le seul. Mais moi, je pense que sportivement, on est tous d'accord pour dire que... Même en ce moment, à chaque fois qu'il touche un ballon et qu'il accélère, ça peut faire très très mal et il a de grosses qualités. Voilà, ça c'est pas.
Ça fait pas souvent mal. Hein.
Oh, quand même. En ce moment, quand il accélère, il a du.
Fait pas toujours des bons choix.
Non. Alors après, ça c'est autre chose.
Les gens se réfugient derrière les stats. De toute façon, c'est toujours comme ça aujourd'hui.
Non, mais tu m'as pas laissé finir, Daniel.
Bim, stat.
Non, mais j'ai commencé. Non, mais j'ai commencé ma phrase en disant que quand il accélérait, ça faisait souvent mal. Sauf que derrière ça. Il y a effectivement pour moi un problème d'attitude et dans l'attitude tu peux, Daniel, mettre à ce moment-là les mauvais choix après avoir accéléré qui sont pas tout le temps les bons effectivement, mais qui découlent pas d'un choix de jeu mais qui découlent pour moi d'une attitude. Et effectivement je suis pas loin de penser que pour l'instant il prend pas la bonne direction sur le plan de la mentalité, voilà, des attitudes. J'espère que c'est juste un passage parce qu'avec les qualités qu'il a, si en plus il reprend la bonne tangente. Voilà, on sait ce que ça va donner. S'il ne l'apprend pas, attention.
Moi, j'aurais dit « peut mieux faire », puisque tu as fait une comparaison avec les enfants. Donc,
d'accord.
Sur le carnet de fin d'année, je mets « peut mieux faire ».
Des capacités, mais « peut mieux faire ».
Que mets-tu sur le carnet de Marco Verratti, qui a donné une interview à la Gazzetta dello Sport aujourd'hui, en disant « je reste à Paris ». Voilà. Bon, j'allais dire « personne lui a demandé s'il partait », mais ici, visiblement, il y avait quand même des rumeurs.
Il
n'y
avait pas de virgule, parce que j'ai pas le choix.
Je vais te dire...
Est-ce qu'il peut encore progresser à Paris, c'est la question.
Je pense
s'il doit le faire, c'est son
je pense qu'il n'y a plus autant de prétendants qu'il y avait.
Ben c'est pour ça que je veux dire, rajoute.
C'est ça le problème.
C'est ça le
problème, parce que certains fans un peu aveuglés ne s'en rendent pas compte, c'est une chose, mais dans le monde du foot et ceux qui décident dans les clubs, il y a quand même certains mecs qui connaissent un peu quoi. Et si l'année dernière il était convoité, l'année d'avant encore plus, et l'année encore d'avant encore plus, je pense qu'il est beaucoup moins convoité qu'à une époque, et j'ai presque envie de dire peut-être même plus du tout. Donc il reste, ben très bien, s'il a envie de rester au moins cette année, il l'a dit tôt, ça évitera de faire son petit cirque estival. Est-ce qu'il peut encore progresser? Je sais pas qui sera le prochain entraîneur. Pour l'instant, celui qui tient la corde, c'est Luis Enrique.
Sauf que Daniel, il reste d'aujourd'hui, peut vite se transformer. Je reste plus un jour.
Moi, je parle de son affirmation du jour.
Il peut progresser dans une autre structure, en fait. Au PSG ou ailleurs.
Aujourd'hui, si tout n'est pas revu. Et si on lui dit pas, que l'hygiène de vie, c'est important, si on lui dit pas, arrête de tripoter la balle, arrête de courir après les arbitres, les progrès viendront pas. C'est pas désespéré quand on a autant de talent. À un moment ou à un autre, tu te dis qu'il y a peut-être quelqu'un qui va visser le cerveau. Si le cerveau n'est jamais vissé, il progressera plus.
On enchaîne. Lille. Alors, Christophe Galtier a dit, j'en ai marre d'entendre qu'on n'a pas un visage de relégable, puisque c'est une question qui lui a été posée après le bon match contre Monaco.
Qui a dit
voilà.
Qui a dit ça?
Un journaliste qui lui posait la question, parce qu'ils avaient fait un bon match contre Monaco, et donc lui a dit, vous faites pas des matchs de relégable quand même. Et il dit, lui, Galtier, j'en peux plus d'entendre ça. Ça fait 29 journées qu'on entend ça, et à l'arrivée, on est avant-dernier. Donc, est-ce que Lille a un visage de relégable?
Il connaît le football. Galtier. Il sait très bien qu'entre le pseudo contenu en plus parce que faire un bon match mais ne pas être efficace dans les deux zones de vérité, ton contenu finalement il est pas bon quoi.
Ça va être très compliqué pour être
voilà sortir. Donc oui de toute manière quand t'es là t'as forcément un visage de relégable, c'est tout, c'est pas compliqué, c'est que t'as moins de points que les autres et que t'es relégable.
Lille avant-dernier avec 28 points, 2 points de retard sur le premier non relégable. Et puis Bordeaux, le choc psychologique est-il terminé? On disait ça en souriant quand Poyet était arrivé à gagner plusieurs matchs alors qu'on pensait bien que le problème était plus profond.
Non mais attends, c'est pas contradictoire.
Oui.
Le choc psychologique, il a existé.
Oui.
Mais un choc psychologique,
ça dit bien ce que ça dit.
C'est un choc, c'est de courte durée. C'est l'entraîneur qui, en plus, n'était pas détesté par tout le monde, s'est fait virer, donc les mecs prennent conscience, ça fait chier, machin, réaction.
un nouveau discours, peut-être il était un petit peu plus expressif, machin. Mais évidemment que ça ne gomme pas tous les problèmes de fond. Et Bordeaux, ils sont pas sortis de l'auberge parce que les mecs qui ont été écartés là, ils ont pas été écartés du club, ils ont été recasés.
Tu parles des adjoints.
Il y a plein de mecs en fait recasés à Bordeaux. Alors, c'est ça, une armée mexicaine Bordeaux
aujourd'hui. Ouais. Juste donc Pierre Épanol, espagnol, et Franck Chaumin, entraîneur des gardiens.
Ce seront que des mecs
ont été écartés
qui mettront du savon sur la planche.
Bah, alors tu sais quoi Daniel, des mecs à lui pour y
aller. Tu sais quoi Daniel, je vais te dire un truc.
Moi,
je suis pas sûr.
C'est gangréné jusqu'à la moelle. Il y a le verre est dans le fruit depuis des années.
Ouais.
S'il y a pas un changement complet, mais c'est Taverneau, soit il prend le karcher et nettoie tout, soit carrément il vend complètement. Mais Bordeaux, il se passera plus rien à Bordeaux. C'est complètement gangréné.
Si je peux rajouter quelque chose, parce que tu as cité deux personnes que je connais. Je suis pas persuadé que ces personnes-là qui ont beaucoup d'estime pour leur club justement, savonnent la planche parce que ils auront pas envie que ça ne fonctionne pas pour le club.
Ouais, mais à un moment
Par contre, là où je te rejoins,
c'est toujours pareil. Hein, ça existait au PSG partout. Les mecs ils disent ouais, mais en fait c'est pour le. Eux penseront que c'est pour le bien du club qu'ils savonneront la planche.
Non, ils
vont retrouver d'autres mecs.
Moi je pense
qui
pas
ont
que
été mis à l'écart il y a plein d'années parce qu'il y a une tripotée d'emplois fictifs dans ce club.
Non, moi je pense pas que ça se situe là. Par contre, moi je pense que ça effectivement le choc a eu lieu. Ben moi je pense que une fois de plus, et on en a parlé tout à l'heure, Daniel, c'est que t'as pas l'autorité suprême qui est en haut et qui décide à un moment donné. Et tu pourras mettre n'importe quel coach. Moi je pense pas que ce soit le discours un peu plus frais de Poirier quand il arrive.
Je pense pas comme tu disais
que ce soit le discours du coach qui était un peu plus frais, etc. Je pense juste que les joueurs quand ils voient un nouveau coach arriver, ils se mettent tous en rang, ils sont disciplinés et d'un seul coup pendant 3, 4, 5 semaines, ils refont un peu ce qu'il faut faire basiquement. Une fois de plus, on revient au basique. Sauf qu'au bout de 3, 4, 5 semaines, et ben les basiques disparaissent, on relâche les brides et un coach qui n'est pas aidé par une autorité suprême ne peut strictement rien faire. Et t'en reviens à ça. Et on l'avait dit à l'époque. Alors, y a une solution. On change de coach tous les 4 journées.
Voilà.
Oui, pourquoi pas. Un choc psychologique à chaque fois.
Ouais.
Alors, sur Monaco, j'avais une question, agence de bookmaker. Monaco est-il clairement le favori pour la seconde place de Ligue 1?
Tu vas énerver Daniel encore.
Oui.
Putain, tu fais exprès.
Oui,
non,
c'est ça.
Il n'est pas favori, il est deuxième.
Ah, ça y est, c'est fait.
Il ne se passera plus rien. Bon. C'est impossible. Très
bien, c'est ce que je pensais aussi. Je voulais aussi ajouter une petite question sur Jovetic.
S'ils ne sont pas deuxième,
qu'est-ce que tu fais?
Je me mets des coups de fouet à ta place un lundi soir.
Alors là.
Oh la vache. On tiendra.
Pas de fouet, parce que ça fait mal. De
martinet.
Non,
fais
des coups de martinet sur les fesses.
Du martinet.
Ouais. Oh là là,
tu prends un martinet,
bon,
tu fais.
Ça existe encore, les martinets?
Bon, on va bien trouver un.
Oh, j'en appelle aux Marseillais, aux Lyonnais, là. C'est le moment de tout donner, là. Ah bah ouais,
si vous voulez voir
Daniel rigoler, là.
Les fesses sur la table.
J'ai pas vu le salaire. Parce qu'on n'a pas le droit. Hein.
On se cachera, Daniel.
On se débrouillera, t'inquiète pas.
Bon, on entendra le bruit sur les fesses.
On se débrouillera. J'avais une dernière question.
Lyon.
Oui, alors Lyon, on n'a plus le temps.
Est-ce que vous comprenez
que Benzema ne veuille pas serrer la main de Valbuena, puisqu'il a dit sur Instagram aujourd'hui, garde ta main, puisque Valbuena avait dit, moi, je suis prêt à lui serrer la main. Duga a dit aujourd'hui, oui, je comprends tout à fait. Ils sont en embrouille, il y a des choses beaucoup plus graves et tout. Je comprends qu'il lui serre pas la main. Pas d'avis, Pierre?
Ouais, non, franchement.
Mais j'aime pas les rancuniers, déjà.
Je connais pas tout de tout, donc c'est compliqué de dire.
Ouais, mais enfin, peu importe.
Mais c'est nul, quoi.
Quoi qu'il en soit, c'est de la rancune. Mais je déteste les rancuniers.
C'est nul, je sais pas. Mais la victime là-dedans était un peu plus Mathieu Valbuena, à la base, quand même, non?
Oui, mais.
Donc c'est lui qui revient et.
Ça m'intéresse pas.
Très bien. Ouais, c'est compliqué.
Parce qu'il est plus en équipe de France, il reviendra pas.
Non, mais fait de parler de Lyon, Daniel voulait parler.
Non, mais je savais qu'en 20 secondes, c'était suffisant pour ça. Donc
c'est bouclé.
Les drôles de dames, dans une seconde, on commencera par l'Angleterre, par Liverpool, par Mohamed Salah, puis il y aura l'Atlético de Madrid avec Fred Hermel, Icardi avec Simone Rovera et Leipzig. Si vous êtes supporter marseillais, d'ailleurs, restez bien avec nous, vous aurez des infos sur le futur adversaire donc de l'OM en Europa League. À tout de suite dans l'After.
RMC, le super football show, l'After Foot.